Alors bonjour, donc il m'a été proposé d'intervenir ce matin sur le thème qui m'a été formulé de cette manière, de la manière suivante. Alors je vous lis le papier qu'on m'a envoyé, hein. S'attacher au Christ pour vivre et aimer. C'est bien ça, hein? Et donc cela en référence à un verset de l'Écriture dans Saint Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. » En fait, la question qui en réalité est ainsi posée, hein, s'attacher au Christ pour vivre et aimer, c'est au fond, qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce que c'est que vivre en chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Donc vous savez, le Saint-Père ouvre l'année de la foi à l'occasion des 50 ans du Concile. Et d'ailleurs, l'année de la foi, c'est cette question qui est posée, que les chrétiens adhèrent de manière nouvelle à la personne du Christ. Et donc je vous commencerai simplement par vous citer un passage du Saint-Père dans l'encyclique sur Dieu est amour. Il dit ceci, « Nous avons cru à l'amour de Dieu. » C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc être chrétien n'est pas l'adhésion à de grandes idées, ni le choix d'un comportement éthique. Bien sûr, il y a des conséquences éthiques. Ni même l'élan d'une grande générosité. Hein, les gens généreux, en général, ça fait des gens fatigués. Fatigants aussi, d'ailleurs. Ça ne dispense pas de pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être généreux. Mais c'est une générosité qui est la réponse à la générosité même de Dieu. Ou c'est la générosité même de Dieu qui transforme nos vies. C'est plus radical. Donc, ce n'est pas même un grand élan de générosité, c'est la rencontre, et le mot qui est employé par le Saint-Père, avec un événement. La rencontre avec un événement. Cet événement, c'est l'événement pascal. La passion, la mort, la résurrection du Seigneur, son ascension dans le ciel et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. C'est tout ça l'événement de Pâques. Donc c'est la rencontre avec cet événement et c'est la rencontre avec cet événement est une personne, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, le Verbe fait chair, Jésus qui nous révèle l'amour du Père. Et cette rencontre modifie notre vie. La transforme, ça donne à la vie un nouvel horizon et son orientation décisive. J'ai pensé à un exemple connu pour illustrer mon propos, on aurait pu en choisir des dizaines d'autres. J'ai pensé à la conversion de Claudel, vous souvenez, vous connaissez, à Notre-Dame, la nuit de Noël 1886. C'est la nuit de Noël aussi, la même nuit où, Thérèse de l'Enfant Jésus parlera de sa conversion. Alors, il décrit cela de cette manière-là. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. Et voici que vous êtes quelqu'un tout d'un coup. La rencontre, c'est magnifique, et voici que vous êtes quelqu'un tout d'un coup. La rencontre avec l'événement pascal, avec le Christ, tout d'un coup, nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes. Révèle l'homme à lui-même, dirait Jean-Paul II. tout d'un coup, nous devenons nous-mêmes. Alors, il y a d'autres témoignages, j'ai pensé à celui-là, mais c'est une petite introduction, simplement. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels essentiels. Quitte à être très basique, et puis je ne sais pas ce qu'ont dit les conférenciers avant moi, c'est toujours un risque. Donc j'espère que je ne dis pas le contraire. Alors, premier rappel, et c'est tout simple, hein, c'est que Dieu est amour. Et que Dieu nous a révélé son amour en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je ne suis pas sûr que nous mesurions ce qui s'est passé dans la passion du Seigneur, dans la mort sur la croix. L'amour de Dieu va jusqu'à l'extrême. Comme dit saint Jean, il aima les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour. En Jésus, tout l'amour de Dieu nous est donné, montré. Montre-nous le Père, dit Philippe à Jésus. Qui me voit, voit le Père, répondra Jésus. C'est-à-dire que quand nous voyons Jésus en agonie, quand nous le voyons pleurer, quand nous le voyons souffrir, quand nous le voyons exulter de joie, quand nous le voyons mourir, nous voyons Dieu. Et nous voyons l'amour de Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu par sa croix, en sa personne. C'est magnifique, c'est saint Paul ça. Il a tué la haine. Et je ne veux pas être trop long, mais je repensais à un passage ou un commentaire de Jean-Paul II dans une petite lettre que je vous invite à lire sur le sens chrétien de la souffrance humaine. On a fait évoquer tout à l'heure en présentant le livre La souffrance, le sens chrétien de la souffrance humaine. Et il dit ceci, et qui touche le cœur même du mystère de l'amour de Dieu et du mystère de la croix. Que s'est-il passé sur la croix? Dans la passion du Christ, la souffrance humaine atteint son sommet. Donc il est méprisé, abandonné de tous les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne et nous l'avons méprisé, compté pour rien. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs, dont il était chargé comme un agneau conduit à l'abattoir. Donc ça, c'est une citation d'Isaïe. Alors, la souffrance humaine a atteint son sommet et simultanément, la souffrance a revêtu une dimension complètement nouvelle. Elle est entrée dans un ordre nouveau. Elle a été liée à l'amour. L'amour qui crée le bien à partir du mal. La croix est devenue la source dont coulent les fleuves d'eau vive. Comment vous dire, c'est que le Seigneur associe la souffrance qui est absurde, humaine, à l'amour. Et tout d'un coup, le mystère de la passion du Seigneur devient une révélation de l'amour qui va jusqu'à l'extrême. Et en regardant Jésus sur la croix, nous voyons Dieu, nous voyons qui est Dieu, comment il nous aime. Cela signifie que l'amour est présent dans le monde et que cet amour est plus puissant que tous les maux, que toutes les par lesquels l'homme est blessé. L'humanité et le monde sont plongés. L'amour se sert de la misère et du mal qui sont dans le monde et qui vont jusque dans le cœur de l'homme, qui s'insinue jusqu'à son cœur pour nous manifester un amour encore plus grand par la force du pardon. C'est prodigieux. Alors je vous souhaite de faire ou de refaire ou d'avoir fait ou de faire ou de refaire l'expérience de cette rencontre du mystère de l'amour de Dieu qui se révèle dans le don total sur la croix. Et j'ai pensé à un passage connu de certains, j'imagine, de la vie de Thérèse d'Avila. Vous savez qu'elle raconte que elle s'est convertie après 20 ans d'irreligieuse. Moi, ça me réconforte parce que ça me laisse une chance. Thérèse d'Avila, qui est au couvent, hein, qui a tout laissé, tout donné, elle dit qu'elle s'est convertie au bout de 20 ans de vie religieuse. Et elle raconte ceci, comment ? Je trouve ça, moi, tout à fait réconfortant. Bon, voilà, ça peut marcher après 25 ans aussi. Hein. Enfin, n'attendez pas trop longtemps quand même. Elle dit ceci, « Mon âme se sentait bien lasse. Mes mauvaises habitudes ne lui permettaient pas de trouver le repos dont elle avait soif. » Ça, c'est à peu près nous tous. Un jour, comme je rentrais dans l'oratoire, j'aperçus une statue qu'on s'était procurée en vue d'une fête à célébrer dans le couvent et qu'on avait placée là en attendant. C'était un Christ couvert de plaies, si touchant, qu'à la considération, je me sentis profondément bouleversé, tant il rendait bien ce que notre Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures, que je croyais sentir mon cœur se briser. Je me jetai auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes. Je le suppliai de me donner à cet instant la force de ne plus l'offenser. Le jour où je contemplais cette statue, alors que je n'espérais plus rien de moi-même, j'attendais tout de Dieu. Ça fait peut-être qu'il nous faut arriver à ce point-là. Sinon, on n'avance pas. Si je m'en souviens bien, je dis au Seigneur que je ne me lèverai pas de là tant que je n'aurai pas exaucé ma prière. Il exauça, j'en suis convaincu, car à partir de ce jour, mes progrès furent sensibles. Alors, il y a différentes étapes de notre vie. Nous devons faire et refaire cette rencontre. Et je pense, avec des années de plus en plus simples et en principe de plus en plus profondes, de plus en plus humbles aussi. Alors donc, l'amour de Dieu. Dieu est amour, ça va ? Ça, c'est le premier appel. Le deuxième, c'est vraiment une simplicité totale, c'est Jésus est ressuscité. Vous savez qu'il paraît qu'il y a encore des gens qui viennent à la messe de dimanche. J'ai lu une enquête, je sais plus quand, là, disant qu'il y avait, c'est 60% des gens qui viennent à la messe qui disent qu'ils croient pas, ou des gens qui se disent chrétiens et qui croient pas à la résurrection du Christ. Oh! Ben, ils sont pas chrétiens. C'est tout. Si on croit pas à la résurrection du Christ, on n'est pas chrétien. Respectable, hein, mais pas chrétien. Alors, vous savez que c'est le cœur de la foi. Le fait d'être chrétien signifie essentiellement avoir la foi en la résurrection. Et je ne sais pas là non plus si nous avons pris toute la mesure de ce que signifie la résurrection du Seigneur. C'est absolument là aussi prodigieux. Une nouveauté radicale entre dans le monde. Ainsi, le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre message, vide aussi notre foi. S'il n'y a pas la résurrection, il est certes possible de recueillir dans la tradition chrétienne un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants sur Dieu et sur l'homme. Jésus est une personnalité religieuse qui demeure grande et qui peut s'imposer à notre réflexion. Mais cette personnalité ne demeure que dans une dimension humaine. Son autorité est relative à mon appréciation personnelle. Mais le Christ est ressuscité. Quelque chose de véritablement nouveau s'est produit. Qui change le monde et la situation de l'homme. Les apôtres et les premiers disciples, vous savez, ont vu Jésus ressuscité. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cet événement, véritablement. Ils ont vécu un événement, mais incroyable. Et on voit bien, quand on lit l'Écriture, ils ne s'y attendaient pas. Ils se trouvent face à un phénomène totalement nouveau, qui allait au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, de leurs expériences. La résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie, comme pour Lazare. Mais Jésus est entré dans une vie nouvelle, une vie tout autre en Dieu. Et l'expérience des apôtres est absolument unique. Ils sont complètement dépassés. Ils vivent quelque chose qui à la fois dépasse toute expérience et qui cependant, Jésus est présent de manière absolument réelle. Alors ils sont à la fois totalement dépassés et c'est absolument incontestable en plus, les deux. Imaginez l'expérience. Au point où des millions d'hommes vont suivre le Christ sur le témoignage des apôtres. Jusqu'à nous aujourd'hui. L'événement de la résurrection n'est pas un événement passé. Quand on fait de la fête de Pâques, c'est pas de l'archéologie. C'est pas le souvenir d'un événement passé. Souvent, je vois bien, on aborde la liturgie, on se souvient à Noël de la naissance du Christ. Et à Pâques, on se souvient qu'il y a eu quelque chose, peut-être, la résurrection du Christ, il y a quelques milliers d'années. La résurrection de Jésus n'est pas un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, dont nous nous souvenons à Pâques. Bien sûr, il y a eu un moment historique. C'est un moment dans l'histoire. Mais cet événement englobe toute l'histoire. Jésus ressuscité veut dire qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est présent au milieu de nous, que nous pouvons le rencontrer aujourd'hui et maintenant. Voilà. Alors l'autre événement que je vois, bon, la résurrection, on pourra y revenir, mais c'est essentiel. Toute la vie chrétienne dépend de ce que je suis en train de vous dire, l'amour de Dieu. Jésus est ressuscité. Autre point, c'est l'ascension. On parle assez peu de l'ascension du Seigneur. Mais enfin, l'événement pascal ne s'arrête pas à la résurrection. Mais elle est suivie de l'ascension. Un Jésus qui, avec son corps, entre dans la gloire de Dieu et qui est assis à la droite du Père, qui partage sa puissance et sa gloire. Alors cela a pour conséquence au moins deux choses. L'humanité de Jésus est entrée en Dieu, donc Jésus entre au ciel avec son humanité et nous y entraîne. Ce qui permettra à saint Paul de dire « Tendez vers les réalités d'en haut ». Le propre de la vie chrétienne, c'est d'être orienté, tendu vers les réalités d'en haut, vers le ciel, si vous préférez, et pas vers soi-même. Le but de la vie chrétienne n'est pas de se sentir bien. Excusez-moi. Bien sûr qu'on se sent beaucoup mieux quand on s'occupe plus de soi. D'ailleurs, Dieu s'occupe de nous à la mesure où on s'occupe plus trop de nous-mêmes. Mais tendez, ayons le regard situé au bon endroit, ou vers lui, dans le mystère de la résurrection, ou vers notre nombril, qui est un abîme infini. On peut s'y perdre, vous savez. Et alors, ça a une autre conséquence. Nous pouvons donc vivre dès maintenant des réalités du ciel, de la vie nouvelle, par notre union au Christ. Et si nous laissons... Si nous lisons bien le récit de l'ascension du Seigneur, nous voyons cela produit non pas la tristesse, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, puisque le Seigneur s'en va, il n'est plus là, ils vont plus le voir, ils sont tristes. Non, on dit que ça produit la joie. Il advint comme il bénissait, il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, il fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant Dieu, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Luc nous dit que les disciples sont dans une grande joie après que le Seigneur se soit séparé d'eux. Normalement, nous vivons de cette joie. Alors je voudrais vous rapporter un petit témoignage que j'ai lu et que j'ai trouvé assez significatif. À propos des sœurs de Mère Teresa, sœurs de la Charité. Donc c'est un SDF malade, atteint du sida, en phase terminale, qui est accueilli dans une maison des sœurs de la Charité. Et il demande à être baptisé. Alors lorsque le prêtre lui demande pourquoi veux-tu être baptisé, il répond « Tout ce que je sais, c'est que je suis malheureux ». Et que les religieuses, elles sont très heureuses. même quand je les insulte, que je leur crache dessus. Hier, je leur ai finalement demandé le motif de leur bonheur. Elles m'ont répondu, Jésus. Je veux ce Jésus pour être heureux, moi aussi. Ça vous est déjà arrivé que des gens vous disent, pourquoi tu es heureux? D'abord, êtes-vous heureux d'être chrétien? Bon, il y en a au moins quelques-uns. Mais ce bonheur, mais c'est une question de bonheur, hein. Ce bonheur vient de ce que j'ai dit précédemment. D'accord? Donc l'ascension n'est pas le départ vers une région lointaine du cosmos du Seigneur, mais elle est la proximité permanente dont les disciples font si fortement l'expérience. Jésus est présent au milieu de nous d'une manière nouvelle en étant à la droite de Dieu. Il en découle un nouveau mode de présence qu'on ne peut plus perdre. Hein, voici que je suis au milieu de vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Vous savez, certains disent « j'ai perdu la foi ». On perd pas la foi quand on perd son portefeuille. Hein. Non, petit à petit, on s'est détaché. On va y revenir. La communion s'est estompée pour des tas de raisons. Ça, c'est autre chose. Et alors, le troisième événement, c'est la Pentecôte. Mais ça, je crois que vous en avez déjà parlé. Hein, l'événement de la Pentecôte, l'événement pascal s'achève par la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Hein, le matin de la Pentecôte. Hein, l'Esprit Saint qui présidait à la création, qui était répandu sur la Vierge Marie à l'Annonciation, qui est descendu en plénitude sur Jésus au moment du baptême, que Jésus a promis, qui tombe sur les apôtres au commencement du démarrage de l'Église, le jour de la Pentecôte, est répandu sur l'humanité. Et ainsi commencent les dons missionnaires de l'Église. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà consumé, dit Jésus. Et je me permets, parce que c'est peut-être l'un des résumés de ce qu'est la vie chrétienne. Un passage du cardinal Ratzinger, avant qu'il ne soit Benoît XVI. Il dit ceci, il fait un commentaire, vous savez, du texte où Élie, le prophète Élie, vous vous souvenez de ça, est emporté dans un char de feu. Et il dit ceci, « Suivre le Christ requiert le courage de se tenir près du feu. Il est venu apporter sur la terre, il est venu, et le feu qu'il est venu apporter sur la terre pour qu'il brûle. Il existe une parole de Jésus qui nous est transmise par Origène et qui n'est pas dans l'Écriture. Celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui ne veut pas être brûlé reculera d'effroi devant lui. Le oui de qui suit le Christ implique le courage de se laisser brûler par le feu de sa passion qui est en même temps le feu salvifique du Saint-Esprit. Ce n'est que si nous avons le courage d'être près du feu, si nous nous laissons enflammer nous-mêmes, que nous pouvons allumer son feu sur la terre. Le feu de sa vie, le feu de l'espérance, de l'amour, le noyau de l'appel, c'est au fond toujours ceci, la nécessité d'être près de nous, à nous laisser embraser par lui, à être transformé en braise ardente d'un cœur brûlant de force par la force de sa parole. Cette ferveur, ce feu brûlant qui est l'Esprit Saint ne se reçoit que dans la prière longue et intense. Donc ma proposition de ce matin est assez simple. Êtes-vous disposé à avoir le courage de rester près du feu et de vous en laisser brûler? Parce qu'en général, on veut bien être au coin du feu. Ça éclaire dans la nuit, ça réchauffe. Les fruits de l'Esprit Saint, on en veut bien. Vous savez, les fruits de l'Esprit Saint, c'est maîtrise de soi sympathique, qui ne veut pas émettre de soi-même. C'est la paix, la joie, longanimité, bonté, enfin des choses très intéressantes. Alors on veut bien des fruits, mais c'est pas ça dont il s'agit. C'est d'entrer dans le feu, ou laisser le feu entrer en vous, ce que vous voulez. L'effet est le même. Je me souviens toujours un jour de Pentecôte. J'étais prêtre et on parlait de l'Esprit Saint, un jour de Pentecôte. Et alors je me suis un peu emballé dans mon homélie en disant, êtes-vous prêt à être brûlé? Alors je voyais des gens me regardaient. Et il y en avait un seul qui avait écouté, parce que comme vous, à un moment, en tirant un peu sur la corde, il dit, bah oui, on veut être brûlé. Puis il y avait un petit devant, tout petit, qui était le seul qui avait vraiment écouté, à mon avis, qui dit, mais moi, je veux pas être brûlé. Alors, tous ces événements, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, au fond, nous y avons accès, plus même. Nous y sommes plongés par ce qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Et vous savez lequel ils sont, les sacrements d'initiation chrétienne. C'est-à-dire, c'est l'organisme qui fait le fondement de la vie chrétienne, absolument nécessaire. C'est baptême, dans l'ordre, baptême, confirmation, eucharistie. Même si nous, à l'échelle latine, on le reçoit dans l'autre ordre. Alors, je vais pas trop m'étendre, mais par le baptême, nous devenons, c'est pas l'entrée au club, hein. C'est pas l'entrée dans l'association. C'est, nous sommes plongés dans le mystère de la Trinité. Nous entrons dans la vie trinitaire, où la vie trinitaire entre en nous. C'est magnifique, hein. C'est-à-dire, nous sommes plongés dans l'amour qui est entre le Père et le Fils, l'amour qu'est l'Esprit Saint. Et nous devenons fils, fille de Dieu. Nous entrons dans une vie nouvelle. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous entrons dans la vie divine, fils et fille de Dieu. C'est fait. Nous recevons la sainteté de Dieu, la charité. Ça, le baptême. La confirmation, c'est pas comme j'entends parfois, maintenant que je suis évêque, je confirme les gamins. Alors c'est fantastique. Les gamins, ça va. Les adultes aussi, beaucoup de plus en plus adultes. Mais chez les adolescents, ça dépend des animateurs. Ça ne vient pas des gamins. C'est à Monseigneur, quand j'étais petit, mes parents m'ont demandé le baptême pour moi. Maintenant, je viens confirmer ma foi. Je dis, c'est pas vrai. Pas vous qui confirmez, c'est moi. C'est pas moi. Bien sûr que j'adhère librement si je suis adulte, sinon ça marche pas. Mais c'est moi, l'évêque, ou celui qui donne la confirmation, qui marque du don de l'Esprit Saint. Et la confirmation, saint Thomas d'Aquin dit, c'est le sacrement de la croissance de la vie chrétienne, qui enracine plus encore en Dieu, qui fait grandir la charité, qui rend capable d'être témoin. Vous voyez, d'être marqué par l'Esprit Saint, le sacrement qui fait grandir, qui donne la maturité de la vie chrétienne. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas été baptisés, ça peut arriver, mais je pense que la majorité sont baptisés. Ben, si c'est pas le cas, c'est pas compliqué. Vous réfléchissez, mais pas trop longtemps. Vous y préparez, vous demandez à être baptisé, vous y préparez, on vous baptisera. Si vous n'êtes pas confirmé, il y a en France en tout cas de plus en plus d'adultes qui n'ont pas été confirmés. Alors c'est pareil. Vous y réfléchissez, vous vous préparez, vous faites une demande, on vous confirmera. D'accord? Et puis l'Eucharistie. Alors, je dis tout cela, je vous dirai pourquoi je dis tout cela. L'Eucharistie, source et sommet de la vie, de la mission de l'Église. Vous savez, Benoît XVI a choisi d'intituler son encyclique sur l'Eucharistie, sa lettre sur l'Eucharistie, en reprenant tout à fait la tradition de l'Église. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Magnifique. Sacrement de l'amour. L'Eucharistie est avant tout ce qu'on appelle le sacrifice du Christ. Alors je sais bien que ce mot n'est pas très à la mode, mais je précise, ça veut dire que au dernier repas, Jésus avec tous ses disciples, c'est-à-dire anticipe et donne sens à tout ce qui va suivre. La passion, la mort, la croix, la résurrection. Donc le sacrifice du Christ, c'est-à-dire le don total de lui-même sur la croix et sa victoire sur la mort. est célébré en chaque Eucharistie. Nous sommes mis en présence de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc Jésus a voulu rester au milieu de nous, au point le plus culminant de l'amour de Dieu. Et il a voulu que cet amour soit accessible, toujours et partout, dans le temps et dans l'espace. Donc en chaque Eucharistie, nous sommes face à l'amour de Dieu. Et nous sommes invités à accueillir l'amour de Dieu, à nous en laisser transformer totalement. Et pour pouvoir, la première manière de participer à l'Eucharistie, c'est pas de communier, c'est de vouloir adhérer à cet élan de l'amour même de Dieu. Bon, je sais pas où vous en êtes. C'est pour ça que les chrétiens vont à la messe de dimanche. Et Monseigneur, est-ce qu'on est obligé d'aller à la messe de dimanche? Je sais pas si on y est obligé, mais si on est chrétien, on y va. Même si vous faire 40 kilomètres, hein. J'ai vu dans mes voyages, c'est nos frères d'Afrique, je peux faire simplement 15 kilomètres aller, 15 kilomètres retour pour venir à la messe du dimanche, et en plus, la messe, ça ne dure pas une heure, hein. On a au moins pour deux heures, quitte à venir, hein. Non, mais c'est essentiel, essentiel. Vous savez, dans mon diocèse, il manque de prêtres, d'accord. Il manque surtout de chrétiens. Pas de problème de vocation, il y a un problème de vie chrétienne. Vous savez, c'est les chrétiens qui produisent des séminaristes. Hein. Vous savez, c'est pas compliqué quand dans un village, on me demande maintenant, le maire dit, donnez-nous un prêtre, j'ai dit, donnez-moi des séminaristes. C'est le peuple de Dieu qui les donne. C'est nous. Puis si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous avez qu'à le devenir. Voilà. Bon, donc je n'insiste pas, nous croyons à la présence réelle du Seigneur, c'est pour ça qu'on adore. Enfin, on pourrait parler des heures d'adoration, mais c'est pas le lieu ici. Et puis par la communion, hein, par la participation au corps et au sang du Seigneur, qui est par la communion, qu'elle soit spirituelle ou concrète, hein, la participation au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre résultat que de nous faire passer en celui que nous recevons. C'est le Concile Vatican II qui dit cela. Alors, précisons un peu les choses. La première manière de participer à l'Eucharistie, c'est de vouloir s'offrir avec Jésus et d'aimer avec lui. Nous pouvons donc pas communier, excusez-moi, n'importe comment. Ni participer à l'Eucharistie n'importe comment. D'autre part, nous avons à vivre en cohérence avec elle. Objectivement, si quelqu'un entretient la haine, la jalousie, la vengeance volontaire, qui dit, de toute façon, je veux lui en vouloir. Vous voyez, c'est très précis, hein. Ben, il peut pas communier. Excusez-moi. C'est en cohérence avec la vérité aussi. Pas seulement la sincérité. Aujourd'hui, c'est le problème, vous savez, on confond sincérité et vérité. Il y a tas de gens sincères qui se trompent royalement. Et puis, c'est la cohérence avec la charité. L'Eucharistie produit la charité, elle la suppose aussi. Je vous cite encore Benoît XVI, dans la communion eucharistique, sont contenus le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à son tour. L'Eucharistie qui ne se traduit pas en pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Alors simplement, où en sommes-nous dans la relation avec l'Eucharistie? Et c'est pas simplement j'ai fait ma communion, c'est est-ce que je vis de l'Eucharistie? Alors, demeurez en lui. Alors pourquoi je vous ai rappelé ces choses fondamentales de la vie chrétienne? C'est parce que la question qui nous s'est posée à nous, c'est où en sommes-nous de tout cela? Comment c'est pour une invitation à laisser se déployer en nous le don de Dieu, la vie divine, et à être véritablement enraciné dans le Christ? Il y a encore des gens qui me disent à mon Seigneur, j'ai tout fait. J'ai fait le baptême, la petite communion, je sais pas ce que ça veut dire, la grande communion, ça dépend les lieux et les pays. La profession de foi en France, hein, au moins dans certaines régions, la confirmation, voilà, j'ai tout fait. En fait, vous avez rien fait du tout. Vous avez tout reçu, mais vous n'avez encore rien fait. Hein, parce que sinon, vous allez réapparaître pour le mariage, peut-être, en tout cas pour l'enterrement. Bon, alors il faut être branché, comme disent les jeunes. Avez-vous, avons-nous vraiment adhéré à notre baptême, à notre confirmation, à l'Eucharistie que nous recevons de manière habituelle? Un jeune a dû m'a dire, mon Seigneur, il faut être branché, voilà. Je dis, t'as raison, il faut être branché. Mais sur qui et sur quoi? Vous savez, excusez-moi, permettez-moi une image qui est vraiment tout à fait... sans doute pas bonne, mais j'ai pensé, quand ce jeune m'a dit ça, j'ai pensé aux appareils électriques. Vous savez, n'importe lequel, vous savez, les appareils électriques. Il y en a, ils ont des appareils électriques. Ils ont tout, c'est des beaux appareils, tout, il y a tout ce qu'il faut, les boutons où il faut, tout, la mâche, tout. Sauf qu'ils sont pas branchés. Et ils disent, pourquoi ça marche pas? Pourtant, là, c'est une belle machine. Ben, il faut être branché. Voilà. Alors, il faut être branché sur l'électricité. Sinon, ça sert à rien. Alors parfois, le branchement est plus ou moins bon. Enfin, il est toujours plus ou moins bon. Alors je voudrais vous rapporter ici le récit de la conversion de Charles de Foucauld. Puis vous en tirez la leçon que vous voudrez. Vous connaissez Charles de Foucauld. Chrétien d'origine, patachon de vie pendant plusieurs années, se convertit... entre autres par une rencontre avec l'abbé Huvelin à la paroisse Saint-Augustin à Paris. Et voici comment est rapportée cette rencontre. Comme il était très tôt et que l'église vient juste d'ouvrir, qu'il n'y a encore personne au confessionnal, monsieur Huvelin est là et Charles s'approche du confessionnal, se penche vers lui sans s'agenouiller et murmure... « Monsieur l'abbé, ne vous étonnez pas, je ne viens pas pour une confession, je n'ai pas la foi, je désire seulement avoir quelques renseignements sur la religion catholique. » L'abbé Huvelin le fixe de son regard. « Vous n'avez pas la foi? Vous n'avez donc jamais cru ?»« Si, répond donc Charles, il y a 13 ans, mais en ce moment... je ne peux pas croire. Il y a toutes les difficultés, les mystères, les dogmes, les miracles. » Réponse de l'abbé Huvelin. Vous vous trompez, mon enfant. Ce qui vous manque en ce moment pour croire, c'est d'abord d'avoir un cœur pur. Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu et vous croirez. Nous, on pense que c'est l'inverse. Mais je suis pas venu pour ça. Cela ne fait rien. Mettez-vous à genoux. Dites votre je confesse à Dieu. Sans trop comprendre ce qui lui arrive, Charles s'agenouille et longuement confesse toute sa vie. Et quand il s'interrompt, il sent un silence profond le pénétrer. Et il goûte une paix qu'il n'avait jamais expérimentée. Le prêtre lui donne l'absolution. La joie envahit Charles et une paix qu'il croyait impossible. Et le prêtre lui dira, êtes-vous à jeun? À l'époque, on ne communiait pas si on était... Ceci étant dit, il y a aussi un jeûne eucharistique. On pas. Ok, ça marche toujours. Hein. Êtes-vous à jeun? Demande le prêtre. Oui. Allez communier, il l'amène à l'Eucharistie. La pointe, ce qui vous manque pour croire, c'est d'avoir un cœur pur. Alors, comment? Ça va, vous me suivez toujours? Comment demeurer en Dieu? Quelques remarques. D'abord, quitte à être très simple, première chose, c'est prier. Alors, c'est pas très original, hein. Quand j'étais enfant et que j'allais me confesser dans mon village natal, on allait avant Pâques, avant Noël, avant la Toussaint et avant la fête patronale du village. C'est pas mal. On peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. À chaque fois, le bon père, j'étais enfant, me demandait « Est-ce que tu as fait ta prière ?» J'ai mis des années à comprendre pourquoi il me posait cette question. Je trouvais cette question mais nulle. Je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai pas fait. Il y a des choses beaucoup plus graves que pas faire sa prière, hein? Eh ben non. J'ai mis des années. Il a fallu que j'attende 30 ans pour comprendre la portée de cette simple question. Si quelqu'un prie, il est sauvé. S'il ne prie plus, il meurt. Même une prière d'enfant. Prier veut dire quoi? T'as fait ta prière, c'est que tu reconnais Dieu comme Dieu. Et que tu ne l'es pas. Et que tu mets les choses dans le bon ordre. Dans le bon sens. C'est le drame d'aujourd'hui, même chez les chrétiens, parfois, parce que nous sommes imbibés de cela. C'est ce que j'appelle la culture du moi. Vous savez, nous nous en rendons même pas compte. Regardez le nombre de publications. Se sentir bien, tout ça. D'accord. Même guérir, mais Dieu guérit, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est pas la guérison qui est le but de l'affaire, c'est la sainteté, ce qui est pas tout à fait la même chose. Vous savez, on sera toujours un peu malade, la vraie guérison c'est quand on sera au ciel, la résurrection de la chair. En attendant, il y a des déchirures qui marquent toutes nos vies dans lesquelles Dieu peut passer. Et il le fait, pas pour les faire disparaître, pour les transfigurer, ce qui est pas tout à fait la même chose non plus. Mais l'important, c'est d'être avec lui. C'est d'être avec lui. D'accord? Bon. Alors, est-ce que tu as fait ta prière? Alors, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est pas l'objet. Il y aurait des tas de choses à dire sur la prière. Je cite un autre exemple qui me revenait en mémoire l'autre jour. C'est ici, un jour, le cardinal de Courtrai, qui est décédé, qui était l'archevêque de Lyon, était venu présider une eucharistie. Et pendant son homélie, il a dit ceci, je m'en souviendrai longtemps, il m'a dit, vous savez, j'ai été pendant toute ma vie professeur de théologie, et j'étais spécialiste en mariologie, dit-il, et je parlais donc de la Vierge Marie, et j'en parlais même très bien, dit-il, je crois, j'en parlais très bien, puis un jour je me suis aperçu que je ne lui parlais plus à elle. Vous savez, des tas de gens, on parle de Dieu, même on y pense, on en parle beaucoup, surtout les ecclésiastiques, quoique pas tellement, en fait. Parfois, on parle de tas d'autres choses sauf de lui. Bon. Mais est-ce qu'on lui parle à lui? D'entrer dans ce dialogue simple, profond. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est simple. Ne vous compliquez pas l'existence. Mais parlez-lui et écoutez-le. Bon. Ça veut dire refaire l'expérience du silence. Et donc se décentrer de soi. Hein, vous savez, la culture du moi, moi et encore moi, fini. Hein. Ok? C'est de vivre de la vie sacramentelle. Ça, j'y ai fait allusion, l'Eucharistie et le pardon. Et puis, il y a un choix à faire, fondamental. Un oui à dire. C'est-à-dire que, il y a un moment, je ne sais pas où vous en êtes, il y a un pas à franchir. Alors, qui se fait à différentes étapes de notre vie. Vous savez, vous avez le oui du jeune converti qui vient de découvrir Dieu, là, à l'instant, qui dit, ça y est, oui, j'ai tout donné. Il faut surtout le garder dans l'illusion. Il pense qu'il a tout donné. Mais il va vite s'apercevoir que c'est pas vrai. Vous savez, c'est comme pour le baptême, vous connaissez cette histoire, c'est le jeune baptisé qui a été baptisé. On lui a expliqué, quand tu vas être baptisé, tu vas être plongé dans la mort du Christ. Le vieil homme va mourir, tout ça, il va plonger dans l'eau, il va glou 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 dans l'eau, il meurt, tu ressors, le vieil homme est mort. Puis 3 mois après, on le revoit, ça s'est bien passé le baptême? Ah oui, très bien, ça va la vie? Oui, j'aime toujours Jésus. Mais là, le coup du vieil homme, là, je me suis aperçu que, vous ne l'aviez pas dit, mais alors il sait nager, hein. Bon. Alors, faut de temps en temps lui remettre la tête sous l'eau, d'accord? Mais il y a des oui à différentes étapes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a petit à petit un chemin modeste, extrêmement profond, si nous acceptons d'y être conduits par Dieu, qui va très loin. Soyez patients. Patience, c'est l'humilité, avec vous-même d'abord. Comme ça, vous le serez peut-être avec les autres. Mais il y a tout de même un moment où le Seigneur nous conduit, avec les années, à un oui à dire. Et pour vous l'exprimer, je voudrais vous citer le père Lallemand, un jésuite du XVIIe siècle. Nous passons des années entières, souvent toute la vie, à marchander si nous donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons pas nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous nous réservons beaucoup d'affections, de desseins, de désirs, d'espérances, de prétentions, dont nous ne voulons pas nous dépouiller pour nous mettre dans la parfaite nudité d'esprit qui nous dispose à être pleinement possédés de Dieu. Ce sont autant de liens par lesquels l'ennemi nous tient attachés pour nous empêcher d'avancer dans la perfection. Nous reconnaîtrons la tromperie à l'heure de la mort et nous verrons que nous nous serons laissés amuser par des bagatelles, comme des enfants. Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de sa grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent et nous donnant à lui sans réserve et sans remise. Mais accablés par notre amour propre, aveuglés de notre ignorance, retenus par de fausses craintes, nous demeurons toujours misérables au lieu de nous donner pleinement à Dieu qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de notre misère. Ce qui retient, vous avez entendu ? Amour propre, aveuglé par notre ignorance et les fausses craintes. Comment vous dire ? Il y a un moment, avec le temps, on découvre qu'on est les pauvres. Plus pauvres encore que nous n'imaginions. Tous. Et ça nous fait peur, peut nous conduire au désespoir. En réalité, cette découverte très profonde est salutaire. On découvre un jour qu'on n'y arrive pas. C'est impossible. Et là, on est confronté à une tentation qui est celle d'une forme de désespoir. Et face à cela, il y a que trois solutions possibles, hein. Je vais vous prendre l'exemple du moine dans son monastère. Il n'y a pas de moine parmi nous, comme ça je ne vais blesser personne. Il y en a peut-être, mais tant pis. Vous savez, c'est le jeune moine au début. Il arrive au monastère. C'est magnifique. Tout est beau. Le père abbé, c'est un saint. Les frères sont des frères. Ils sont tous saints. Ils sont magnifiques, c'est fantastique. Tout est beau. La cellule où on dort est belle. La toile d'araignée dans le coin est belle. Tout est beau. C'est fantastique. Et puis, on y est presque. Il manque un petit truc, là, mais on y est presque. C'est fantastique. 5 ans plus tard, 10 ans pour certains, ça dépend. Hein. Il y en a, c'est 3 mois plus tard, mais quelques temps plus tard, on trouve que le père abbé est quand même moins saint qu'on pensait. Que le frère Henri raconte toujours la même histoire à la même moment, on commence à la connaître par cœur. Que quand même, on pourrait faire le ménage un peu mieux dans les cellules. Que d'autres parlent, la charité, tu parles, ils sont pas si charitables que ça. Quand vous dites ça d'ailleurs, qu'ils sont pas dans la charité, vous parlez de qui? De vous ou des autres? Vous savez, on convertit que soi. C'est vrai qu'on manque de charité, surtout moi. C'est la question qu'on posait au pape Jean-Paul II. Hein. Qu'est-ce qui va mal dans l'église en ce moment? Eh bien, il dit, vous et moi. Bon. Et alors là, il commence à trouver que rien ne va plus. Alors, quelles sont les solutions face à ce moment-là, inévitable? C'est vrai dans la vie de couple. Hein. Alors, il y a la solution. J'avais raison, on a toujours raison dans ces cas-là. J'avais raison, je me suis trompé. C'est pas ça. Je me suis fait avoir. En fait, tout ça, c'est du baratin. Je m'en vais. Ciao, bye bye. Et je m'en vais forcément tout triste. J'en veux à la planète entière, surtout aux autres d'ailleurs. D'accord ? Vous pouvez toujours partir, hein ? Dieu ne vous retiendra pas. Le jeune fils de la parabole de l'enfant broti, quand il dit « Donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais », le père le laisse partir. Ça va ? L'autre solution, c'est « Je reste et je me résous à une certaine forme de médiocrité. » Oh, on camoufle bien, hein. On est à l'heure à la messe à peu près, on est méchant avec personne, on est gentil, enfin, on essaye, tout bien, vu de loin, c'est pas mal. Ça brille un peu. Voilà, très bien. Et on entre en général dans une double vie. Oh, pas méchante, hein. Rien, il n'y a rien contre la foi et contre les mœurs, enfin pas encore. Hein, voilà, c'est tout simple, voilà. Hein, c'est double vie, ce que Claude de la Colombière appelait la tiédeur. Voilà. Bon, très bien. Puis vous avez une autre solution, c'est d'aller plus loin sur deux choses. Dans l'intimité avec le Christ, modeste, et dans la charité, héroïque. Mais pas comme un effort, comme une réponse. Alors, ça va ? Bon, il faut pas que je sois trop long. Autre chose que je tiens à vous dire, ce n'est pas possible sans les frères. Ce n'est pas possible, il n'est pas possible de demeurer en Dieu ou d'avancer sans les frères. Être chrétien n'est jamais une démarche uniquement individuelle, isolée. La foi n'est jamais qu'une question, n'est pas qu'une question privée. N'en déplaise un beaucoup. Puis c'est pas simplement moi et Jésus. Ma messe à moi. Je veux ma messe à moi. Et si c'est pas à 18h, j'irai plus. Et puis si c'est pas le père machin, je vais pas. Ma messe. Mais c'est pas ça. C'est contradictoire à ce qu'est la nature même de l'Eucharistie. Je sais pas si vous avez remarqué, Jésus envoie ses disciples toujours deux par deux. Pourquoi ? D'abord parce que le premier témoignage, c'est celui de la charité, et pour vivre la charité, il faut être au moins deux. D'accord ? D'autre part, la présence de nos frères nous protège de deux choses. De l'orgueil et du désespoir. Parce que quand ça marche pas, vous pouvez toujours vous dire que c'est à cause de l'autre. Et puis quand ça réussit, vous avez un doute si c'est peut-être aussi peut-être à cause de l'autre. Non ? Tandis que si vous êtes tout seul, vous ça marche pas, vous désespérez. Et si ça marche, vous pensez que c'est à cause de vous. Et dans les deux cas, vous vous trompez. D'autre part, le seul lieu de vérification de l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour nos frères. C'est pas compliqué. Vous pouvez avoir des émotions à la chapelle et trouver que vous aimez beaucoup le bon Dieu. Comme disait Thérèse d'Avila, on lui présentait un jour une religieuse qui avait le don des larmes. Et elle répondait, les fontaines dans les villages en Andalousie ont aussi le don des larmes. Donc le seul lieu de vérification, c'est de savoir si les pauvres sont encore proches de vous. C'est-à-dire que si vous êtes encore pauvres. Les pauvres, il y en a de toutes sortes. J'aime pas trop le mot, c'est pas les pauvres, nous et les pauvres. C'est les pauvres, c'est-à-dire nous. Bon, alors vous étonnez pas que vos frères et sœurs sont pauvres, sont exactement comme vous. Vous étonnez pas qu'ils aient des défauts, ils sont comme vous. Exactement pareil. Mais vaut mieux avoir ces frères-là que pas en avoir du tout, je vous signale. Et alors d'autre part, le piège du démon sera toujours de nous isoler. Ou par le haut, en pensant qu'on est les meilleurs, ou par le bas, en pensant qu'on est les plus moches et les pires de pires. Hein, vous savez, c'est le fameux bouquin qui doit se vendre encore, je pense, Tactique du diable, de Carl Lewis. Où il raconte, c'est une histoire, c'est une truc imagé. C'est l'histoire d'un petit diable qui écrit au diable chef, parce qu'il pourrait passer des examens. Il a comme boulot de faire tomber un jeune chrétien qui est un jeune converti. Alors il y a plusieurs histoires, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Il dit, il y a des moments où il a tellement choisi le Christ, il est attaché au Christ, tu peux plus te détacher du Christ, donc ne te fatigue pas. Fais autre chose, arrange-toi pour qu'il change de paroisse tous les dimanches. C'est presque pareil. C'est, il se met là, il va à la première paroisse, il trouve que c'est bien, mais le prêtre parle trop longtemps, donc il s'en va. Il trouve que la dame a un chapeau qui est trop grand, donc ça l'énerve, et donc il vient plus. Et il fait lui changer comme ça tout le temps. Et tant qu'il bougera tout le temps, il n'avancera pas. Très bien. D'accord? Bon. Et puis ceux qui veulent une église de saints, je vous rapporte cette histoire qui n'est pas de moi, hein. C'est le vieux cardinal Suenens, avant qu'il ne soit mort, qui racontait ça. Il disait qu'il avait un ami qui lui disait « J'entrerai dans l'église le jour où je rencontrerai une église faite de saints. » Alors le vieux cardinal lui disait « Mais t'auras beaucoup de mal. » Hein. Parce que, un, ça n'existait pas, et puis même si ça existe, le jour où tu y rentres, elle n'y est plus, elle ne l'est plus. Bon. Enfin, je veux pas trop m'étendre, mais demandons cela, pas sans les frères, pas sans l'église. Et puis alors, le dernier point, puis après je vais faire une conclusion, parce que il faut s'arrêter un moment. C'est que c'est toujours par des petites choses. C'est toujours concret. L'union à Dieu, c'est toujours des petites choses. La conversion, ça passe toujours par des toutes petites choses. Comme les grandes œuvres missionnaires. J'ai toujours pensé, Mère Teresa, quand elle racontait comment elle a commencé, c'est assez simple, hein. Elle dit, j'étais dans la rue, j'ai vu un enfant qui était sale. J'ai pris de quoi lui laver le visage, je lui ai lavé le visage. Il y en avait un deuxième, j'ai recommencé. Je me suis aperçu qu'il ne savait pas lire. J'ai pris mon petit tableau, je me suis mis dans la rue et j'ai fait la classe aux petits. Point. Moi, fonder l'espoir de Mère Teresa, j'en suis incapable. Laver le visage d'un enfant, ça je peux faire, non? Alors vous me direz, mais un, ça résout pas le problème. À force de pas résoudre les problèmes, parce qu'ils sont trop grands, on fait rien. Faisons, vous savez, on demandait, il y a un ami qui a rencontré le Saint-Père il y a quelque temps, et une conversation à table, il y a eu une question sur l'avenir de l'Église. Qu'est-ce que sera l'Église dans 40 ans? Et le Saint-Père a répondu ceci, ça m'a beaucoup touché, il a dit, écoutez, ce que sera l'Église dans 40 ans, mais c'est pas un problème. Ce n'est pas mon problème. Il n'y a pas de problème. Moi, ma question, c'est ce que je dois faire aujourd'hui. L'Église, dans 40 ans, il s'en occupe. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Point. Et là où je suis, maintenant, la petite chose pour me rapprocher de Dieu, pour me rapprocher de mon frère, la toute petite chose, même maladroite, mais faites-le. Ça va? Alors, tout ça, en conclusion, c'est une invitation à entrer dans l'amitié avec Jésus. C'est la définition que le pape Benoît XVI donne de la sainteté. Il dit que la sainteté, c'est entrer dans l'amitié avec Jésus. Et parfois, on a peur d'entrer dans cette amitié véritable. On a peur de perdre quelque chose. Alors Benoît XVI dit, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout à celui qui se donne à lui. Donc je vous invite, d'accord, amitié avec Jésus, d'accord? Je vous invite à la confiance. Le père Liberman, fondateur des Spiritains, dit « Le manque de confiance est ce qui paralyse le plus les croyants et qui empêche d'avancer. Les chrétiens viennent se plaindre de leur manque de générosité ou de volonté, alors qu'ils manquent surtout de confiance. Ils paraissent manquer de générosité, mais ils manquent surtout de confiance, car ils s'appuient beaucoup sur eux et peu sur Dieu. Je vous invite à entrer dans la joie. En réalité, de tout cela découle la joie. Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous ravir. Et la joie, c'est l'Esprit Saint lui-même. Donc demeurer en lui, c'est demeurer dans la joie. Je vous raconte une dernière petite histoire. Parce que j'ai trouvé ça remarquable. Il y a quelques années, j'avais vu à la télévision une émission de télé avec des derniers. C'est mon choix. Vous connaissez ça, les plus vieux là, non? Ça n'existe plus? Je suis pas très branché en réalité. C'est mon choix, enfin c'était mon choix, voilà. Alors, en tout cas, il y avait une animatrice connue dont le nom m'échappe complètement, tellement connue que je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, les gens la connaissent. Et puis elle avait invité deux religieuses. Il y avait une vieille religieuse, une vieille. Et puis il y avait une jeune religieuse. Puis tout d'un coup, un peu de manière provocante, elle dit, elle s'adresse à la religieuse un petit peu. Oui, à cause du célibat, c'est le célibat, hein? Le problème de la chasteté. C'est d'ailleurs pas qu'une question de célibat. Et alors, elle lui dit, mais l'amour d'un homme ne vous manque-t-il pas? Aux deux religieuses. Alors la plus jeune, avec un beau sourire, mignonne comme tout, elle dit, elle explique, c'est très beau, Jésus, j'aime Jésus, tout ça. Très beau, hein, très bien. Très convenu, mais très bien. Rien à redire. Puis en plus, elle avait un beau visage, sympathique, comme tout. Bonne affiche pour la pub. Mais pas suffisant, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la pub. On s'en fout, la publicité. Mais on s'en fout complètement. L'important n'est pas le drapeau, l'important c'est de le vivre. Point. Et si on le vit, ça se voit. Jusqu'au martyr. Et alors, tout d'un coup, la religieuse plus âgée s'est réveillée. Et puis elle dit, ça c'est l'Esprit Saint, elle dit à la journaliste, je peux aussi moi vous poser une question? Oui. Vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu pour vous? Alors la fille complètement déstabilisée, le public se réveille. Elle dit, elle insiste, vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu pour vous? Et elle répond, non, ça vous manque pas. C'est exactement la question que nous devons poser au monde. Mais nous pouvons la poser que si nous sommes brûlés par l'amour de Dieu, à travers même notre médiocrité que je vous accorde. Ça va ? Merci.